j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Photo Média en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Bonne rentrée. Ce soir à l'émission, nous avons trois chroniques en compagnie de Tessie Jean-Paul, Charles Lemieux ainsi que Camila Rodriguez-Cea. Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Donc, ce soir, on va commencer directement dans le vif du sujet principal avec Charles. On va parler de notre cher métro. Et Dieu sait qui en a long à dire. Donc, Charles, qu'est-ce qui se passe avec notre métro?
Moi, j'ai décidé de m'intéresser au côté un peu obscur du métro de Montréal, plus particulièrement aux tentatives de suicide dans le métro, les fameuses interventions des services d'urgence. J'ai trouvé deux recherches sur le sujet qui sont très intéressantes. La première s'appelle « Cluster Analysis of Characteristic of Persons Who Died by Suicide in the Montreal Metro Transit System. Analysis of Variations Over Time ». Ça a été fait par des gens du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, le CRISE, et le département de psycho de l'UQAM. C'est sorti en septembre dernier. Leur analyse, c'était, ils essayaient de dresser un espèce de profil des gens qui tentaient de s'enlever la vie dans le métro. Ils ont remarqué déjà qu'à Montréal, ça ne représente pas une grande proportion des suicides, à environ 28% entre 2000 et 2008, tandis qu'à Vienne, c'était 63% des suicides qui étaient commis dans le métro. Il y a plusieurs facteurs qui influent sur ça, le design des stations, la vitesse des trains qui changent le taux de réussite. Mais c'est ça. Donc,
mais est-ce que les gens qui commettent un suicide dans le métro ont un profil particulier?
Oui, ben, selon leur recherche, entre 2000 et 2008, par exemple, ça a changé un peu après, mais durant cette période-là, ils ont remarqué que les gens qui suicidaient dans le métro étaient en général plus jeunes que les autres. Il n'y avait aussi pas beaucoup de différence dans les genres par rapport à d'autres moyens. Donc, il y avait plus de femmes qui suicidaient dans le métro en proportion par rapport à d'autres moyens utilisés. Aussi, les gens se suicidaient en grande majorité près de leur maison ou près d'un centre d'aide psychiatrique. Il y avait très rarement de l'alcool ou des drogues dans leur sang. Puis une très grande proportion des gens n'étaient pas à leur première tentative. Donc pour toutes ces raisons-là, ils ont déterminé qu'il n'y avait pas de « hotspot », c'est une étude en anglais, donc c'est ça le terme qu'ils ont utilisé, de suicide dans le métro, vu que les gens se suicidaient en général près de chez eux. Puis par conséquent, plus une station avait beaucoup de passagers quotidiens, plus il y avait de possibilités de qu'il y ait des gens qui tentent de se suicider dans cette station-là.
Puis tu t'es aussi penché sur une autre étude.
Oui. Ça a été publié dans le Biomed Central Public Health. Ça a été financé par la STM. Je ne savais pas qu'ils finançaient des études sur la santé mentale, mais ça a l'air. Puis leur recherche s'intéressait à... Ben, le nom, c'est « Can CCTV identify people in public transit station who are at risk of attempting suicide? Analysis of CCTV video recording of attempters and a comparative investigation. » Ça a été fait par deux des mêmes auteurs et un autre auteur qui s'appelle Serge Dupont.
Puis leur étude a été assez concluante. Ils ont été capables de déterminer certains comportements.
Oui, leur étude, eux, ils se sont penchés sur les années entre 2010 et 2013. Ils ont déterminé qu'il y avait en moyenne 15 tentatives par année dans les stations de métro de Montréal. Le deux tiers des tentatives étaient des échecs.
Oui, et puis je sais que les porte-parole du métro veulent que ça se sache, que quand on tente de se suicider dans le métro, ça ne fonctionne pas la majorité du temps.
Oui, mais c'est justement, j'ai fait une recherche, une petite revue de presse comme ça, rechercher est-ce que les médias en avaient parlé. Et tout ce que j'ai trouvé sur le sujet, c'est cet article ici du Devoir que vous pouvez entendre.
Merci.
Mais pas voir, ça fait plaisir. Qui s'appelle « Métro, repérer les comportements typiques pour intervenir », qui justement parlait de la deuxième étude que je vous parle en ce moment. Puis ça a été publié le 16 décembre 2016. Donc, ils ont essayé d'identifier, en visionnant des vidéos dans les stations, lesquelles étaient des comportements qui étaient typiques de gens qui tentaient de s'enlever la vie. Et aussi d'essayer de déterminer lesquels étaient clairement des comportements qui étaient seulement visibles pour les gens qui étaient en train de tenter de se suicider. Par exemple, quelqu'un qui marche sur la ligne jaune, ils ont déterminé que c'était un des signes, mais il y a beaucoup de gens qui marchent sur la ligne jaune, puis qui ne devraient pas. Ou si les gens qui regardaient pour si le train allait arriver, ça c'était un signe qui était visible dans la très grande majorité des cas, mais... beaucoup de gens font ça aussi. Aussi, les gens qui avaient l'air déprimés, c'était un très bon signe, mais il y a beaucoup de gens qui sont déprimés dans le métro.
On en apprend des choses.
Oui, mais ils ont quand même trouvé des points qui étaient assez uniques puis qui étaient des signes probants. Mais en fait, la finalité de leur recherche, ils ont déterminé que quand il y avait plusieurs signes qui s'accumulaient, ça devenait un danger vraiment potentiel qu'il y ait quelqu'un qui tente de se suicider dans le métro.
C'est un peu stressant,
Un peu. Oui, mais il essayait en fait d'observer si la STM pouvait, admettons, avoir des gens qui s'occupaient des caméras de sécurité puis qui visionnaient les caméras de sécurité puis qui pouvaient, en temps réel, ils ont parlé aussi de faire un logiciel pour spotter des signes comme ça, mais si quelqu'un pouvait identifier avec succès si quelqu'un allait tenter de se suicider pour pouvoir avertir le conducteur en temps réel, rapidement, pour que le conducteur puisse ralentir, pas entrer en station pour tenter d'éviter le pire.
Mais moi, je sais qu'une des stratégies de la STM pour prévenir les suicides, c'est parce que beaucoup de gens demandent, oui, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des garde-fous, dans le fond, à l'entrée du tunnel, sur le bord du quai? Et la STM avait répondu qu'elle préférait concentrer ses forces en mettant des agents de prévention sur l'équipe, et on les voit parfois, là, je les vois parfois à Berry-UQAM, mais rarement ailleurs, là, à des heures de grande affluence. Est-ce que c'est efficace?
Oui, ben en fait, selon leur recherche, un des résultats qu'il y avait, c'était que installer des barrières dans les stations, c'est la solution miracle. Ils ont étudié d'ailleurs une recherche qui avait été faite à Hong Kong, qui ont installé des barrières comme ça à certaines stations, pas à toutes les stations, juste à certaines stations qui avaient plus de cas de suicide. Puis ils ont remarqué que ça baissait. Ben, il n'y avait plus de suicide dans les stations où il y avait des barrières.
C'est sûr que si tu attaches les gens, ils ne peuvent pas sauter.
Aussi. Mais également, il n'y avait pas de migration des suicides. Donc les gens n'allaient pas dans des stations qui n'avaient pas les garde-fous pour aller suicider, vu que les gens se suicident en général.
Donc, ça serait peut-être une bonne idée pour l'avenir du métro de Montréal d'installer ce genre de garde-fous-là dans certaines stations ciblées qu'on connaît déjà comme étant des lieux assez propices à ce genre d'actes.
Mais, oui, effectivement, mais ils ont constaté comme problématique que, vu que le métro de Montréal était quand même assez vieux, ça pouvait être vraiment très coûteux d'installer des systèmes comme ça. Donc, la STM qui envoie des personnes pour aider des intervenants dans les stations, c'est déjà une bonne étape. C'est pas infaillible, mais c'est une bonne étape.
Et pourtant, il y a des stations qui sont beaucoup plus vieilles que la... ben, je veux dire, des métros qui sont beaucoup plus vieux que ceux de Montréal. Je pense à plusieurs villes européennes qui ont eu leur métro avant le 20e siècle même. Donc.
Oui, mais c'est pas pareil. Parce que il y a plus de population, le métro fait plus d'argent, le métro a plus de moyens pour mettre des systèmes comme ça, tandis qu'à Montréal, on est quand même une petite population, quand même, comparé à des grandes villes comme, mettons, Paris, qu'il y a 350 millions de personnes qui prennent le métro. Je ne suis pas certain exactement des chiffres, mais ça doit être dans ces environs-là. Tandis qu'à Montréal, comme il y a un million maximum de personnes qui prennent le métro par année, quelque chose comme ça, donc ça devient moins rentable. Voilà.
Donc tout ça, c'est la faute à qui?
C'est de la faute aux médias de ne pas assez sensibiliser les gens à ce problème-là. Et s'ils en parlaient, ils pourraient inciter les gens à intervenir dans les stations. Puis s'ils voient quelqu'un qui a un comportement qui peut sembler suicidaire, d'aller juste lui parler. Puis vu aussi, une des conclusions qu'il y avait, c'est que 75% des gens qui tentaient de se suicider dans le métro, ils ont constaté qu'il y avait un certain remords à un moment donné, puis qui voulait changer d'idée, mais que finalement, il ne pouvait pas.
Comme beaucoup de survivants du suicide en général.
Exact.
Là.
Donc, juste aller parler à quelqu'un qui n'a pas l'air de filer, ça peut l'aider. Voilà.
Merci beaucoup, Charles. On va se quitter en chanson. Je n'ai pas le nom de la chanson ici, mais je vais pouvoir vous en dire plus après l'avoir écoutée. La chanson que vous venez d'écouter était « Don't Wanna See You Cry » de l'artiste Coffee sur son album « Heartburn ». Toujours sur notre sujet du jour, le sujet étant le métro de Montréal, qu'on aime ou qu'on haït, dépendamment s'il est bloqué ou pas. Tessie, Jean-Paul, comme deuxième chronique, les médias, tu as observé qu'ils rendaient la vie difficile à la STM. Est-ce que c'est justifié? Qu'est-ce que tu en penses?
En fait, moi, j'aime beaucoup le métro de Montréal, mais je voulais quand même apporter une petite nuance aujourd'hui. Étant l'un des moyens de transport les plus convoités de Montréal, le métro dessert chaque jour des milliers d'usagers, autant des habitants de l'île de Montréal, mais aussi de l'extérieur de l'île. Il est donc évident de comprendre les attentes assez élevées de la clientèle face à ce transporteur de masse. L'utilisation des transports en commun pour plusieurs constitue... l'unique moyen de transport, ou sinon, est suite à une réflexion calculée du transport, en fait, là, quand on considère l'option, par exemple, du véhicule, des choses comme ça. Donc, c'est une option possédant plusieurs vertus, que ce soit au niveau écologique ou économique. Et puis, si certains... la reconsidèrent ce choix d'utiliser les transports en commun et d'autres doivent subir les nombreux déboires de la STM. Les derniers temps, la STM a fait l'objet de la colère de plusieurs usagers et la cible des médias quant à ces services offerts à la population.
Oui, justement, la semaine dernière, samedi, il y a eu une longue panne sur la ligne orange qui a duré jusqu'à tard dans la soirée, jusqu'au lendemain matin, en fait. Donc, de à peu près 2h30 dans l'après-midi jusqu'au lendemain matin, 7h.
Suite à quoi, catastrophe, tous les trains azur ont été retirés du réseau de la STM?
Les plus beaux trains de tous les temps, avec leur lumière qui flash, on se croit dans des vaisseaux spatiaux.
Écoute,
c'est parfait.
En tant que Trekkie, fan de Star Trek, je les aime beaucoup, ces métros-là.
Oui, effectivement. C'est très beau métro. Donc oui, c'est ça. En effet, il y a eu au-dessus de 3 pannes majeures dans le réseau entre novembre et janvier. C'est quand même un court espace pour 3 pannes majeures de ce type-là. Ces pannes ont été répertoriées par plusieurs médias. Autant Journal de Montréal, Journal de Devoir. Tout le monde a vraiment entendu parler de ces pannes
assez
majeures.
Et le Journal Métro aussi est assez bon pour ça, là, étant donné que...
Il est dedans, oui.
C'est son public cible.
Exactement. Et puis, devant l'incompréhension des usagers et des médias, le directeur général du service de transport de Montréal, Luc Tremblay, a dû s'adresser à Patrice Roy, journaliste à Radio-Canada, pour expliquer la situation désastreuse du réseau. Il explique certaines de ces pannes par le renouvellement de certaines stations ou par justement le déplacement de certaines voitures comme les anciennes voitures de la ligne orange sur la ligne verte, mais aussi à cause de la clientèle... comme des objets échappés sur les voies ou même de la circulation non autorisée sur les voies aussi peuvent ralentir le service de métro. Suite à cette déclaration faite aux médias, on observe une volonté de la part du STM à renouer avec la clientèle. On peut lire à travers les déclarations du directeur justement faites aux médias telles que l'augmentation de 6% des fréquences du métro et même la prolongation de l'heure de pointe du matin et du soir. De plus, les tarifs ne seront pas sujets à augmentation annuelle pour le début de l'année 2017.
Puis j'ai remarqué aussi que dans les réseaux sociaux, ils sont pas mal plus actifs. Avant, quand les gens se plaignaient parce qu'il y avait des retards, des pannes, tout ça, il y en avait beaucoup qui étaient pas, auxquels la STM ne répondait pas. Mais là, de plus en plus, on répond tout le temps.
Oui, j'ajouterais même, en plus d'y aller avec, je pense que la meilleure stratégie, en toute manière, c'est ça, c'est vraiment d'essayer de rendre un peu moins grave la situation que ce qu'elle est. La dernière campagne en date, c'est celle « Ne perdez pas votre carte opus ». Puis là, il y a une carte opus qui est avalée par un piranha, une autre qui tombe dans un truc dans un barbecue. Donc, ça me semble assez efficace. Là.
Et l'équipe de com' de la STM est vraiment cool.
Ça coche.
Oui. Donc, depuis un certain temps, on observe beaucoup plus d'affichage de sensibilisation dans le métro. La STM est en pleine opération séduction avec les médias montréalais afin justement de renouer avec sa clientèle et pour aussi redorer son image aussi à travers les médias. Donc, on annonce plus de 52 trains azur pour le 30 septembre 2018. Et puis, malgré tout, on observe quand même que le retrait des voitures azur a été fait sur la ligne orange, donc la totalité de les voitures azur depuis samedi, en fait.
Donc, ce sera peut-être pas d'ici le 30 septembre 2018, mais peut-être d'ici le 30 septembre 2081.
Ouais. Exact. Oui, c'est ça. C'est des promesses de politiciens, en tout cas. C'est qu'est-ce qu'on observe. Puis, la chose que je me demande, c'est que la STM sera-t-elle renouée avec nos cœurs? Donc, c'est une histoire à suivre. Et puis, ça, c'est encore la faute aux médias, parce que si les médias ne s'avaient pas mêlés de la situation, peut-être que la STM avait peut-être continué à prendre sa clientèle pour acquis, parce que de toute façon, on ne peut pas aller à l'école en jet-set. Fait que
non, c'est ça. Les beaux messages. Merci de choisir de voyager avec la STM. Souvent, c'est pas par choix, mais c'est par nécessité.
Mais c'est quand même spécial aussi cette façon que la STM a de traiter les gens qui l'utilisent comme étant des clients, je pense, ça dit. Les clients de la STM. Moi, j'aime beaucoup plus le mot usager. Là. J'aime pas, c'est pas parce que je paye pour quelque chose que nécessairement on doit me ramener avec mon statut de consommateur.
Mais c'est un besoin essentiel, en fait, le transport. Là.
Oui, ben ouais. Mais ça sort aussi du cadre de la STM. Mais dans les CHSLD, maintenant, on ne dit plus que les gens sont des bénéficiaires, mais on dit qu'ils sont des clients.
Ah, même ça pour aussi, l'éducation, ça commence vraiment, c'est vraiment spécial. Là. Il y a des profs qui me disent, oh, vous êtes mon client, donc on est vraiment dans une espèce de, d'ère de la privatisation et du service assez spécial.
Donc, oui. Donc, ça va être à suivre cette stratégie de séduction de la STM.
Oui, il va peut-être avoir une deuxième page décrite.
Merci beaucoup, Tessie. Donc, maintenant, on va aller écouter... non, dans le fond, on ne va pas aller écouter de chanson tout de suite. On vous revient. Donc, Camilla, toi, tu t'es également penchée sur le métro cette semaine, mais toi, tu t'es penchée sur les critiques dont la STM a été victime à ce sujet-là, et tu penses que ça l'a probablement incité à lancer sa dernière campagne publicitaire que tu as examinée.
Oui, effectivement. Ma chronique va totalement se placer dans la lignée de la tienne, Tessie, et vous l'avez peut-être vu dans le métro, la campagne dont je vous parle s'est déployée sous le thème de « Bien voyager ensemble ». En fait, c'est une campagne qui date de 2014 et qui a été ressortie et modifiée de façon bien commode, si vous voulez mon avis, suite à l'avant-dernière grosse crise de panne. Donc, la dernière grosse crise, c'est celle de samedi passé, l'avant-dernière, c'est celle de novembre, où est-ce qu'il y a eu 5 pannes de service en 3 jours. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ouais. C'était apocalyptique. Là. Les publicités, il y en a plusieurs déclinaisons. Elles expliquent que chaque année, il y a plusieurs objets qui sont échappés sur les rails, qui causent des arrêts de service, que le déclenchement des freins d'urgence en réelle urgence a retardé des millions de voyageurs, que des centaines de minutes ont été perdues à cause de portes de train retenues. Et plus récemment... vous avez peut-être aussi remarqué l'apparition de petites affiches jaunes collées directement par terre sur les quais de métro qui abondent dans le même sens. Faites attention, sinon vous pourriez ralentir le service. Puis en fait, si on regarde ça, là, il y a deux sources de ralentissement de service. Les usagers et le matériel de la STM. À ce sujet, ben, les chiffres que j'ai trouvés datent de 2012, c'est pas trop mal, durant cette année. Le réseau du métro a connu 1029 arrêts de service de 5 minutes et plus.
C'est presque 3 par jour.
Oui, absolument. 510 étaient reliés à des méfaits. Je trouve assez... j'allais dire coquine, c'est pas du tout ça.
cocasse,
oui, l'utilisation de ce terme-là. Mais là, je me demande, est-ce que c'est des gens qui sont sur des rails ou alors est-ce que c'est des gens qui font de l'urbex, de l'exploration urbaine, qui sait. Et aussi par des personnes malades, donc qui ont des malaises dans le métro. 221 étaient attribuables au matériel roulant, 75 au système et à l'équipement, 223 à d'autres facteurs. Donc, on peut voir que presque à égalité, il y a les causes qui sont reliées aux usagers et celles qui sont reliées au matériel de la STM. Puis, quand je vous présente ça, l'objectif là, de la STM, c'est clair, c'est de donner l'impression aux usagers, l'objectif des campagnes, là, c'est de donner l'impression aux usagers de métro qui sont eux aussi responsables des ralentissements et des arrêts de service dans le métro. Et dans le fond, comme la STM la STM tape davantage sur ce genre de cause-là, ça donne l'impression que c'est principalement la faute des usagers. En fait, si on additionne les causes en 2012, on arrive vraiment à égalité là, entre les deux types de pannes. Et difficile à dire, cependant, si le métro se prive de revenus ou encore paye pour afficher dans son réseau, parce que les panneaux d'affichage à l'intérieur de la STM appartiennent à Bell Media. J'ai été chercher, là, mais c'est vraiment un brilingo, c'est ça?
Imbroglio.
C'est ça, exactement. Afficher à l'intérieur du réseau de la STM, ça coûte cher. Les communications de la STM pensent que ça vaut la peine d'investir là-dedans, je pense.
On espère qu'ils ont des ententes pour pouvoir afficher dans leur propre réseau.
Oui, c'est exactement ce que je pensais, mais je me demandais, tu sais, si dépendamment comment c'est fait, ces ententes-là, est-ce que la STM bénéficie d'argent? Tu comprends, à chaque fois qu'il y a des afficheurs ou des gens qui achètent cet espace publicitaire-là, c'est là que mon questionnement.
Il faudrait investiguer.
Oui. Puis je veux maintenant vous lire les premières lignes du communiqué de presse qui date du 26 novembre 2016. Chaque jour, au moins un objet est échappé sur la voie dans le métro et cause des arrêts de service. En 2015, 516 objets sur la voie ont causé 895 minutes d'arrêt de service qui ont nuit au déplacement de milliers de clients. Ces délais sont évitables et la STM souhaite inciter ses clients à modifier leur comportement pour empêcher que de tels événements se reproduisent.
D'accord.
Donc, on voit que dans certains de ces rapports, la STM présente les arrêts de 5 minutes et plus. Dans d'autres, elle a simplement additionné toutes les minutes ensemble. Pour les curieux, 895 minutes d'arrêt de service, c'est presque 15 heures, mais c'est sûr que c'est plus impressionnant quand on présente sous minutes. 15 heures réparties sur plus de 6900 heures d'activité en un an, c'est moins de 0,2% du temps d'activité du métro. La façon dont on présente les chiffres est importante. Elle peut être trompeuse.
Il faut remettre les choses en perspective.
Et effectivement. De plus, la façon dont les premières lignes sont formulées laisse aussi entendre que les autres types d'arrêts de service ne sont pas évitables, mais pourtant, c'est probablement le cas. À quel point est-ce que c'est vrai? Difficile à dire. Les experts de la STM, ça reste la STM. Donc, pour conclure, gardez l'œil ouvert. La STM vous parle. Elle nous parle énormément. Surveillez ces campagnes publicitaires. Faites attention à les placer dans leur contexte. Non, la STM ne veut pas que vous échappiez votre cellulaire dans les rails, mais c'est pas parce qu'elle a votre iPhone à cœur.
Merci beaucoup, Camilla.
Ça fait plaisir.
C'était déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle qui étaient nos chroniqueurs et chroniqueuses. Nous avions Charles Lemieux en début d'émission, suivi de Tessie Jean-Paul et Camilla Rodriguez-Séa. Merci à toutes.
Merci à toi.
Merci.
Donc, on se laisse en chanson. Nous allons écouter New Song de l'artiste Warpaint sur son album Heads Up. Merci à Charles pour la suggestion.